L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre-quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio La.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans l'entrevue, l'émission à l'écoute du pays de Dieulfi-Bourdeaux. Si je vous dis Harry Potter, Roald Dahl, Tommy Ungerer ou la collection J'aime lire, vous pensez à quoi ? À des histoires, j'imagine, des personnages, des images et des couvertures de livres peut-être, à des souvenirs d'enfance et de premières lectures sûrement. Vous l'aurez compris, c'est de littérature jeunesse dont il est question aujourd'hui, des albums illustrés pour les plus petits, à la littérature adolescente en passant par les bandes dessinées ou les mangas, c'est un genre littéraire loin d'être mineur, riche et varié, et aujourd'hui reconnu à sa juste valeur qui nous intéresse aujourd'hui. À Dieulfi, Petit Saut et Petite Gambade, la librairie jeunesse de la rue du Bourg fête son premier anniversaire. On en profite pour se saisir de ce sujet au micro de Radiola avec notre invité. Alors c'est quoi la littérature jeunesse ? Est-ce que les plus jeunes lisent aujourd'hui ? Réponse dans cette émission. C'est parti !
L'entrevue, l'actualité locale au pays de Dieulfi-Bourdeaux.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Marin.
Alors tu es libraire à la librairie Saut et Gambade, donc tu es spécialisée dans la littérature jeunesse. Peut-être pour commencer, je voulais revenir sur les titres que j'ai cités en introduction, donc Harry Potter, Roald Dahl, Tommy Ungerer, donc ces auteurs et autrices pour J.K. Rowling bien connus. Ces références, elles sont tirées de mon enfance. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité en littérature jeunesse ?
Ah, complètement. Ça, ce sont des classiques maintenant et vraiment beaucoup lus et beaucoup appréciés. C'est d'ailleurs Harry Potter, c'est très certainement le grand phénomène qui a bouleversé cette pratique, donc la littérature jeunesse.
Et pour autant, c'est un secteur, enfin, comme je le disais aussi en introduction, très, très riche, avec énormément de nouveautés. On ne s'en rend pas forcément compte quand on ne fréquente pas les librairies jeunesse ou qu'on n'a pas d'enfants, par exemple, mais c'est une
thématique. Il y a énormément de publications, oui. Il y a à peu près 18 000 nouveautés chaque année, donc c'est énorme. Et il faut choisir parmi toutes ces nouveautés régulièrement. C'est un travail passionnant et les lecteurs sont au rendez-vous. Il y a énormément de bons lecteurs parmi tous les enfants, aussi bien les petits que les plus grands, les adolescents.
Parce que ce qui rentre dans le champ de cette littérature jeunesse, ça va des livres d'éveil à la lecture, donc avec très imagé, avec des illustrations, jusqu'à de la littérature plus étoffée pour les adolescentes et les adolescents. En gros, c'est de 0 à 18 ans, vraiment.
Ah, c'est ça, exactement. Donc c'est vrai que quand on parle littérature jeunesse, ça paraît littérature, ça peut paraître un mot un peu imposant, et parce que les gens, souvent, on le réflexe de voir un petit album pour bébé, c'est un vrai terme parce que c'est vraiment très très important, c'est très sérieux dans le sens que ce sont des publications qui aident les enfants à grandir et à se construire. Donc, quel que soit l'âge, effectivement, dès les premiers mois et jusqu'à le passage à l'âge adulte. C'est une littérature qui existe depuis très très longtemps d'ailleurs.
Peut-être un mot d'histoire justement. Est-ce qu'on peut dater la littérature jeunesse sous sa forme peut-être moderne comme on la connaît aujourd'hui ? Tu voulais nous partager quelques dates en tout cas ?
Oui, comme on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment un essor qui est assez récent puisque ça a commencé dans les années 80 à peu près. Mais c'est vrai qu'on connaît tous les Fables de La Fontaine, et ça c'est 1668. On connaît aussi Robinson Crusoé, 1700, Alice au Pays des Merveilles, 1800, les petits albums du Père Castor qui sont du début des années 1900, le fameux Petit Prince, 1943 précisément, et enfin Harry Potter, 1998. C'est vrai que c'est pas récent, et en même temps, ces dernières années, c'est une véritable explosion et une richesse inouïe. C'est beaucoup, beaucoup de publications et beaucoup de très, très grande qualité.
Une qualité qui concerne à la fois les auteurs et les autrices donc qui écrivent les histoires, que les illustrateurs et les illustratrices, parce qu'ils sont intimement liés à la littérature jeunesse.
Exactement, c'est vrai que c'est un domaine où l'image est très importante, puisque une grande partie de ce qu'on appelle les albums sont destinés à des enfants qui ne savent pas encore lire, donc à peu près entre 3 et 6 ans par exemple. L'image est évidemment très très importante, on leur raconte l'histoire, on leur lit l'histoire et eux ils regardent les images. Mais les illustrations, les illustratrices et les illustrateurs sont très très importants dans ce secteur-là. Mais aussi le texte, bien évidemment, parce que c'est aussi après les grands plaisirs de lecture pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Et comme je disais, jusque l'âge adolescent, avec vraiment des auteurs qui ont énormément de talent.
Mmh. Est-ce qu'il y a des prix pour cette littérature spécifique
un Oui, peu comme, alors justement, ouais. oui, pour confirmer, entre guillemets, que c'est une littérature importante, sérieuse et de plus en plus reconnue, il y a des prix qui sont... l'équivalent du prix Nobel, entre guillemets, c'est le prix Astrid Lindgren. C'était la créatrice des histoires de Fifi Brin d'Acier, je ne sais pas si tu connais.
Oui, ça me parle.
Donc c'est une Suédoise et donc elle a... Il y a le prix tous les ans, Astrid Lindgren, et d'ailleurs il y a assez régulièrement des Français qui ont ce prix-là, en particulier Jean-Claude Monleva qui a eu le prix en 2021, que je pense qu'on connaît un peu tous, puisque en particulier son roman La rivière à l'envers est étudié à l'école en ce moment, donc c'est vraiment un auteur très, très reconnu. Il y a aussi en France, là, plus précisément, il y a le prix des Incorruptibles. Ça, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'il est décerné par les enfants eux-mêmes dans différents niveaux de classe, donc de la maternelle au lycée. Pour chaque âge, pour chaque catégorie d'âge, il y a un prix et chaque année. Et c'est vraiment très, très qualitatif et absolument passionnant. Et plus récemment, il y a un prix que moi, personnellement, j'aime beaucoup, c'est le prix Vendredi, qui est pour la littérature adolescente, une littérature qui prend vraiment un grand essor ces dernières années et qui mérite d'être plus largement connue, avec des auteurs très vraiment qu'il faut prendre en considération. Et là, cette année, c'était un roman qui s'appelait Au nom de Chris, de Claudine Desmarteaux. Ça parle de l'emprise d'un jeune adolescent par un de ses copains. Enfin, il rencontre quelqu'un, un garçon plus âgé que lui, mais qui n'est pas encore complètement adulte. Et qui va vraiment exercer une fascination sur lui. Et c'est un livre qui est très bien écrit, où il y a beaucoup de mystères, beaucoup de suspense, mais qui attire l'attention pour que les jeunes vraiment soient vigilants justement par rapport à leur rencontre et voilà. Donner confiance en soi, c'est quelque chose de très important à l'adolescence.
Ouais. Et j'imagine qu'il revient régulièrement dans les thématiques des ouvrages que tu...
Exactement, et c'est pour ça que je disais au début de l'émission que c'est en fait cette littérature, comme toute littérature d'ailleurs, hein, littérature adulte aussi, ça permet de grandir. Ça donne des clés pour mieux comprendre le monde, pour mieux se comprendre soi. Et c'est on a absolument besoin des livres. Moi, je pense que c'est absolument indispensable.
À l'école et pas seulement à la maison, c'est vachement important aussi.
Oui, exactement. Exactement. Et c'est là que c'est un peu dommage d'ailleurs pour les jeunes collégiens. Souvent, on constate une baisse un petit peu dans la lecture à ce moment-là, parce qu'ils ont des livres imposés à l'école en lecture, en français, et ça les éloigne un petit peu, je trouve, de la lecture plaisir à ce moment-là, ce qui est bien dommage. Alors après, bon, c'est vrai que les lectures imposées à l'école sont importantes pour la culture générale, pour l'histoire, je remets pas ça du tout en question, mais c'est dommage que à ce moment-là ils perdent un petit peu le lien avec des livres qui vont être plus dans le loisir pour eux. C'est un peu dommage.
Des livres que ses enfants peuvent choisir, notamment à la librairie.
Exactement, il y a un choix incroyable. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Et des livres drôles, des livres émouvants, des livres encore avec des illustrations d'ailleurs aussi. Pourquoi pas, il y a de plus en plus de romans adaptés en roman graphique. Et ça plaît énormément parce que du coup, le côté visuel, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les tablettes, ils ont de plus en plus l'habitude d'avoir des images, les enfants. Et de leur mettre ces romans adaptés avec des illustrations, c'est une bonne idée. C'est les éditeurs ont bien compris que là, il y avait quelque chose à faire. Et c'est bien ça. Ça remet des livres dans les mains de ceux qui se disent non-lecteurs.
Toi qui vois des centaines d'enfants toutes les semaines qui viennent parfois seuls, parfois avec leurs parents ou leur famille... venir chercher des livres, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que ces enfants cherchent? Alors, il y a autant de goûts que de personnes, évidemment, notamment les enfants, mais est-ce qu'il y a des ouvrages ou des collections qui sont particulièrement demandées en fonction des tranches d'âge?
Ah oui, oh là là, c'est exactement comme dans la littérature adulte, il y a les top ventes. Alors là, ces dernières années, celui qui a vraiment battu tous les records, c'est un livre qui s'appelle « L'enfant, la taupe, le renard et le cheval ». Et en fait, c'est très étonnant parce que ce livre-là, c'est finalement un petit peu comme « Le Petit Prince ». C'est un livre qui est à la fois très poétique et très philosophique, avec des belles illustrations, donc exactement comme Le Petit Prince, et en fait qui s'adresse aussi bien à l'enfant qu'à l'adulte. Il y a énormément d'adultes qui viennent acheter ce livre et ont le plaisir de lire ce livre. Sinon, ben évidemment, il y a, comme on le sait, les livres Harry Potter, toujours, toujours, toujours dans les meilleures ventes. Il y a aussi les mangas, bien évidemment. Gros, gros succès des mangas. En particulier One Piece, bien sûr, que tout le monde connaît.
Oui.
Cette année, on a eu encore un nouvel Astérix. Bon, pareil, voilà, toujours au rendez-vous. Les Français adorent Astérix. Et on a raison, d'ailleurs. En plus, cette année, le cru était très bon. Voilà, il y a beaucoup de top ventes qui sont tout à fait au niveau d'ailleurs de la littérature adulte, au niveau des quantités de lecteurs.
Avec des modes, des auteurs, des autrices qui sont particulièrement plébiscités, des genres littéraires. Je pense à la littérature adolescente, on entend parfois parler de dark romance. C'est quoi cette dark romance?
Alors, dark romance, oui, alors ça, effectivement, énormément de succès. Après, bon, moi, je suis un peu froide par rapport à ça parce que je trouve que ça me donne pas forcément une très très belle idée de ce que sont les relations d'amour, puisque là, c'est comme son nom l'indique, c'est dark, donc c'est un peu noir, c'est très noir, c'est plutôt dans la violence, plutôt dans la soumission, dans la domination, enfin bon, bref,
c'est quand même de la littérature jeunesse.
Mais alors, ouais, voilà, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que du coup, il y a souvent des très jeunes filles qui viennent demander ce genre de livre alors qu'elle c'est pas forcément très très adapté pour les plus jeunes. Mais bon, c'est ce qui est fantastique, c'est qu'il y ait cet engouement, c'est qu'il y ait cette lecture, qu'il y ait le rapport aux mots, le rapport à et puis échanger. Enfin, je veux dire, si sur les réseaux sociaux les filles, parce que bon, ce sont surtout des lectrices, partagent leur coup de cœur et s'arrachent ce genre de livre, tant mieux, c'est parfait, c'est bien. Mais bon, après, à nous aussi en librairie, peut-être de les orienter vers des choses un petit peu plus douces, on va dire, parce qu'il y a aussi justement, moi, mon livre préféré en littérature adolescente amoureuse, on va dire, c'est le livre de Clémentine Beauvais qui s'appelle « Songe à la douceur ». Voilà, je crois qu'on est un peu mieux armé pour ce monde brutal avec ce genre de lecture qu'avec de la dark romance un peu trop noire à mon goût, mais... Mais chacun ses goûts, bien
chacun
évidemment.
Chacun ses goûts et peut-être, comme tu disais, une porte d'entrée vers une autre forme de littérature plus tard, une fois passées ces années adolescentes.
Exactement.
Et pour les enfants, pour les adolescentes et les adolescents qui n'aimeraient pas lire, parce qu'il y en a en tout cas qui sont réfractaires à la lecture, est-ce que la librairie de Dulphy notamment met des choses en place ou qu'est-ce que tu leur proposes à ces enfants quand ils viennent pousser la porte de la librairie ?
Alors justement, c'est arrivé il y a quelques jours, enfin ça arrive assez régulièrement, mais là c'était vraiment cliché, on va dire. C'est le papa et le petit garçon qui arrivent dans la librairie, le papa qui me présente le petit garçon et qui dit voilà, on cherche un livre... Donc je m'adresse à l'enfant, parce que moi c'est vraiment comme ça que je préfère faire, bien évidemment. Je lui demande « qu'est-ce que tu aimes comme livre ?» Et il me répond très brutalement « oh, j'aime pas lire ». Bon, et je l'ai orienté vers des livres qui sont plus sur de la documentation du coup, parce que lire, les livres c'est tellement de choses, c'est tellement varié. Ça peut être un livre sur les Jeux Olympiques, ça peut être un livre sur la conquête spatiale, ça peut être un livre sur les étoiles,
animaux.
Sur les animaux, sur... Il y a tellement de variétés et donc on est sur l'image ou pas, sur l'illustration, sur la photo, sur le texte bien évidemment, mais pas que. Enfin vraiment, c'est très très large. Donc on peut amener un enfant qui dit ne pas aimer lire, à prendre énormément de plaisir à feuilleter des livres. Et d'ailleurs, il était ravi et il était passionnant, ce gamin. Il savait énormément de choses. Il était très, très, très vif, très intelligent, très malin. On a passé vraiment un très, très bel échange. Et je pense qu'il était content de ce qu'il a pris. Voilà, c'était un chouette moment. Et donc, il ne faut pas dire « j'aime pas lire ». Je pense que il y aura toujours un livre qui correspondra à chacun. On est tous différents, et bien évidemment. Et donc, mais il y a tellement de livres qu'il y a forcément celui qui vous correspond.
Je te propose de faire une pause musicale, Isabelle. On écoute Thomas Fersen avec ce titre « La chauve-souris ».
Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris émet un parapluie, émet un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit de balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris émet un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui. Pendant que le parapluie menait au père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau. Avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie.
Nous sommes toujours avec Isabelle, libraire à la librairie Petit Sceau et Petite Gamba de la librairie jeunesse de Dieulfi. Il y a quelque chose des histoires pour enfants et du conte dans les morceaux de Thomas Fersen, notamment celui qu'on a entendu, La Chauve-Souris. C'est toi qui m'as proposé d'ailleurs de
oui.
diffuser ce chanteur.
Ah oui, je trouve que c'est excellent. Ça évoque tellement... quand j'entends ce genre de musique de Thomas Fersen, j'ai envie de sautiller, de gambader et de... Et c'est tellement à l'image de la plupart des albums jeunesse. Donc, je rappelle, les albums, c'est donc les livres qui sont illustrés et qui sont plutôt pour les enfants entre 3 et 6 ans, à peu près, hein, bien évidemment, parce que c'est les catégories d'âge, elles sont très, très floues, bien évidemment. Ça dépend des enfants, des contextes et plein de choses. Là, en particulier, cette musique, elle me fait penser à un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Le vilain petit machin, de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray, aux éditions Seuil Jeunesse. C'est une réécriture savoureusement drôle du célèbre conte d'Andersen. Et donc, c'est pas une chauve-souris, mais c'est un canard. C'est le vilain petit canard, quoi. Mmh. Et donc, c'est vraiment très sautillant et gambadant. Et ça fait partie de mes gros, gros coups de cœur à la librairie là, de ces derniers mois.
Et là, tu l'as dans la main, en fait. Tu l'as ramené dans le studio de Radio là.
Oui.
Je crois qu'il y a quelques coups de cœur que tu as ramenés qui sont assez différents. Est-ce que tu veux nous les présenter pour donner un aperçu aux auditeurs et auditrices de ce que peut être la richesse de la littérature jeunesse?
Alors donc, je viens de parler du vilain petit machin. Il y a aussi un autre album que j'aime énormément qui s'appelle Matin miné à l'intérieur. Ça, c'est Anne Herbault. Et chez Pastel, donc École des loisirs, qu'on connaît absolument tous, hein, vraiment École des loisirs, ça accompagne tous les enfants, c'est dans toutes les écoles, des maternelles, les crèches, enfin voilà, tous les enfants ont l'immense chance d'avoir ces livres entre les mains. Et cette histoire-là en particulier, c'est deux petits animaux qui sont à l'intérieur parce que c'est l'hiver, et il y en a un des deux qui lit. Et l'autre qui ne lit pas et qui s'ennuie terriblement. Et il neige dehors et il neige dehors et il peut pas sortir et il s'ennuie énormément. Et l'autre, petit à petit, l'air de rien, lui fait prendre conscience que, en fait, en lisant, ben, le temps passe merveilleusement bien et du coup il trouve plus le temps long. Enfin, c'est vraiment, les illustrations sont, que vous ne pouvez pas voir à l'antenne, mais c'est vraiment d'une douceur infinie. Et le texte aussi, c'est une ode au plaisir de la lecture. Ouais.
Bon, faut aller à la librairie Petit Sceau et Petite Gambade pour aller feuilleter cet ouvrage.
Un autre que j'aime beaucoup aussi, ça c'est un grand classique, c'est Le Nuage Bleu de Tommy Ungerer. Parce que voilà, donc ce fameux nuage bleu qui va heureusement un jour se vider complètement, parce que ben il va pleuvoir sur un incendie déclaré par la guerre. Donc voilà, alors là c'est une ode à la paix et c'est pareil pour moi un livre majeur et que on devrait tous avoir dans notre bibliothèque, même en tant qu'adulte, mais pour arrêter de se taper dessus et et d'être dans la violence toujours. Et un autre que j'aime beaucoup, alors ça c'est de la bande dessinée, c'est une série qui est très connue et qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Le Loup en slip, donc par Lupano et Itoïse. Alors voilà, rien que le titre, et puis alors je vais vous dire aussi le titre de cet album-là en particulier, c'est Le Loup en slip et le mystère du paix silencieux.
Oh, wow.
Voilà, tout un programme. Hein. Et là, évidemment, tout le monde rigole.
Les enfants comme les adultes, peut-être.
Exactement.
Apparemment.
Ah, mais complètement.
Parmi les livres que tu as choisis, et puis ceux dont tu parlais aussi tout à l'heure, donc il y a des thématiques comme l'emprise ou le harcèlement, ou ce livre de Tommy Unger sur des valeurs, on va dire, fondamentales.
Oui, pour les exactement.
C'est une forme d'engagement des autrices et des auteurs depuis longtemps de la littérature jeunesse sur oui. des thématiques importantes. Est-ce que tu dirais que c'est une littérature engagée
Alors, engagée, je pense pas. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas certaine que ce soit le mot qu'emploieraient les auteurs et les autrices eux-mêmes. Mais par contre, c'est évident que c'est un véritable... ils plantent des graines et c'est extraordinaire de... justement, à l'occasion d'une lecture d'album, déjà c'est un moment partagé, donc ça c'est très 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 important, c'est fondateur pour l'équilibre d'un enfant, qu'un adulte prenne du temps avec lui, et l'accompagner dans la lecture des albums, ça permet effectivement de faire passer des messages de tolérance, des messages de bienveillance, des messages de confiance en soi, très large et c'est très, très important, c'est effectivement très philosophique.
Et peut-être ce que, en tout cas c'est une impression, mais que la littérature de jeunesse d'aujourd'hui, elle suit l'évolution de la société également, ou notamment sur les histoires un peu des stéréotypes de genre, avec les histoires de fées, enfin de princesses
oui.
pour les petites filles, et les histoires de super-héros pour les garçons. Il y a
oui.
beaucoup d'autrices et d'auteurs qui s'amusent pour qui c'est important,
Oui, il y a toute une nouvelle génération, effectivement, de jeunes auteurs, jeunes autrices qui sont, comme tu dis, engagés dans cette évolution. Après, ils sont un peu en avance par rapport à la demande. C'est-à-dire que les gens, souvent, en arrivant à la librairie, me disent « on cherche un cadeau pour un petit livre pour une petite fille ». Enfin, c'est encore très genré, c'est encore vraiment... mais on va vers quelque chose de plus équilibré, et c'est tant mieux, c'est très très bien.
Je crois que tu voulais nous partager une anecdote autour de ton travail à la librairie jeunesse.
Oui, alors il arrive souvent des choses rigolotes et en particulier je me souviens d'une fois où j'avais vanté un roman pour adolescents que j'aime énormément qui s'appelle Plein Gris. De Marion Brunet, qui est merveilleusement bien écrit et qui parle effectivement là aussi d'emprise, parce que bon, quand même, c'est vrai que c'est une thématique assez importante au moment de l'adolescent. L'adolescent se cherche, il ne sait pas trop qui il est, donc des fois il se rapproche de personnes qui vont l'éblouir et qui vont l'entraîner dans des situations pas forcément pour son mieux. Et là, donc, c'est aussi une histoire d'emprise. Et j'en parlais avec beaucoup d'enthousiasme. Et en fait, la personne en face de moi, c'était l'autrice. Donc, c'était un moment un peu cocasse et sympathique.
Heureusement que tu en as dit du bien
et
oui.
du
mal de ce livre-là.
Mais... bon, a priori, de toute façon, tous les livres que j'ai à la librairie sont des livres dont je peux dire du bien. Parce qu'ils sont...
Sélectionnés par tes soins et ceux de tes collègues.
Exactement.
Soé Gambad,
oui.
On les salue d'ailleurs.
Oui.
En parlant de Soé Gambad, l'actualité du moment, peut-être pour terminer cette émission, c'est que c'est le premier anniversaire donc, extension donc, de la librairie Soé Gambad, Petit Soé et Petite Gambad. Je crois qu'il y a une fête qui est prévue pour fêter ce premier anniversaire le samedi 17 juillet. Quelle surprise est-ce que vous avez préparé pour souffler cette première bougie?
Alors donc samedi 17 février, là, ce samedi, là déjà, ça arrive à grands pas, on va être dans la joie, bien évidemment, on va être sautillant et gambadant, il va y avoir des bonbons, des gâteaux à partager, évidemment, il va y avoir une chasse au trésor avec plein de petits et gros cadeaux d'ailleurs, et on va avoir plein d'animations, des lectures d'albums aussi justement à 11h et à 16h, deux fois dans la journée on va lire plusieurs beaux albums, nos coups de cœur à tous là dans l'équipe. Et aussi, on va inviter les petits à écrire leurs vœux sur des petits papiers pour lancer ça dans l'univers et espérer plein de joie et de bonheur dans ce monde un peu compliqué et chaotique en ce moment.
Donc samedi 17 février à partir de 11h. Jusqu'à...
À partir de 10h, enfin on est même ouvert à partir de 9h, mais voilà, vous pouvez venir quand vous voulez tout au long de la journée et il y aura beaucoup de joie.
Merci beaucoup Isabelle.
Merci Marin.
D'être venue parler de littérature jeunesse au micro de Radiola. L'entrevue c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve ce jeudi matin à 9h30 avec une rencontre avec des photographes, Charles de Borgraff et Anne-Laure Ménage qui vient nous parler de leur travail. D'ici là, portez-vous bien et lisez des livres. Je propose qu'on se quitte avec Anne Sylvestre et une chanson des Fabulettes, J'ai une maison pleine de fenêtres. Très belle journée à l'écoute de Radiola.
J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et des portes aussi, faut le reconnaître, et des portes aussi, il faut bien sortir. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et un escalier qui grimpe, et un escalier qui fait mal aux pieds. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et un ascenseur qui est toujours en panne, et un ascenseur qui fait mal au cœur. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et des habitants qui grognent, et des habitants qui n'ont pas le temps. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et puis moi ça va, je saute, et puis moi ça va, je ne m'en fais pas. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long.
Radiola, producteur local d'ondes de qualité.